Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 5, chapitre 16, Trêve entre les deux parties, du 28 mars au 4 mai 1533. Médiation des fribourgeois, leur discours aux syndics et aux prêtres, discours au peuple et du peuple, les deux parties s'abouchent, joie et murmures, projet de conciliation lu par les capitaines, il est accepté, un dominicain chante victoire, la scène du Jeudi Saint, sarcasme et effroi des catholiques, le dominicain à Saint-Pierre, le syndic du Crest part pour Berne, de la Maison Neuve s'y rend, son discours au conseil bernois, le syndic reste muet. Il se trouvait alors à Genève quelques étrangers, et en particulier sept marchands de Fribourg venus pour la foire. Ils regardaient avec douleur le spectacle qui les entourait et ne pouvaient comprendre que des concitoyens allassent jusqu'à se tuer les uns les autres pour satisfaire l'appétit de leurs prêtres, dit un manuscrit. Ces bons Suisses s'avancèrent pour moyenner. Les chefs du parti catholique, ne doutant pas qu'ils ne fussent de leur côté, leur demandèrent leur appui. « Nous ne nous mêlons dans ces sortes d'affaires, » répondirent sagement les fribourgeois, « que pour mettre la paix, puisque nous sommes combourgeois et bons amis, soit de vous, soit des autres. » Ils se rendirent à la rue des Allemands. « Voyez, » dirent-ils aux réformés, « voyez la grande multitude de peuple qui est là contre vous. Il faut que cette affaire soit apaisée sans choir dans un plus grand inconvénient. » Les réformés, prêts à la bataille, répondirent, « de notre côté n'est venue l'émeute et nous serions affligés de faire chose qui tournât à dommage de la seigneurie ou du peuple. Nous ne demandons qu'à être en paix et à vivre selon Dieu, en obéissant aux magistrats comme il est commandé dans l'Évangile. Ce que nous faisons n'est que pour nous défendre, car on a conspiré de nous tuer tous. Si tant de prêtres, de moines assemblés demeurent sur la place, assurez-vous que nous nous défendrons jusqu'au bout s'il plaît à Dieu de nous assister. » Mais nous sommes déplaisants de nous battre contre nos pères, frères, parents, amis et voisins à l'appétit de ces prêtres et religieux. » Les fribourgeois, encouragés par ces paroles, retournèrent au Mollard et, s'adressant aux prêtres, ils leur dirent « Il n'est ni bon ni honnête et surtout il n'est pas selon votre office d'émouvoir ainsi le peuple pour faire qu'on se tue les uns les autres. Il serait mieux votre devoir d'être en vos maisons ou au temple à prier Dieu que d'être ainsi en armes. Quand le peuple est en discorde, vous devriez le mettre en paix au lieu de l'inciter à répandre le sang. » Ces paroles étaient chrétiennes et ces laïcs faisaient au clergé d'excellentes exhortations. Mais les prêtres étaient tellement passionnés qu'ils ne voulaient rien entendre. Après le discours pacifique des fribourgeois, ils se montrèrent plus enflammés que jamais à vouloir tout tuer. Alors ces bons marchands, ébahis de voir des ecclésiastiques si avides de bataille, pensèrent que les laïcs seraient plus modérés et s'en allèrent parlementer avec les magistrats. « S'il y a du sang versé, dirent-ils, on en rejettera sur vous toute la faute. Faites votre office, c'est à vous de commander. Ordonnez aux deux parties de se retirer en leur maison. » Les magistrats, qui, au fond, désiraient la paix, furent piqués d'honneur et résolurent d'apaiser le tumulte. Se portant vers les prêtres, de qui dépendait toute l'affaire, ils leur dirent en présence de tout le peuple « Il nous faut mettre la paix !» Mais le clergé n'en voulait rien faire et même il excitait d'autant plus le peuple à assaillir les luthériens. Les fribourgeois, indignés, résolurent de lui faire peur. « Messieurs, leur dirent-ils, nous vous prions que vous ne soyez pas tant fiers, car si l'on venait à se battre, nous aimerions mieux être de leur côté que du vôtre. Ce sont autres gens de guerre que vous, en meilleur ordre et de bon équipage, nous les avons vus. » Puis, montrant le peuple qui les écoutait, « Avec ceux, messieurs les prêtres, continuèrent-ils, pensez-vous que ces hommes qui sont ici et qui ont de l'autre côté leurs enfants, leurs parents, leurs amis, les veuillent tuer ou se laisser par eux mettre à mort pour l'amour de vous autres, certes, nous les prions de se retirer. Et si après cela, vous voulez assaillir vos ennemis, pensez bien à ce que vous ferez, car par aventure, vous n'aurez pas le loisir de vous en retourner. » Ces bons fribourgeois ne s'enterrent pas là. Après avoir parlé aux magistrats et aux prêtres, ils se mirent à haranguer le peuple. S'approchant des citoyens, ils leur parlaient bouche à bouche. « Vous avez du côté des Huguenots, leur disait-il, des fils, des parents, des amis. Voulez-vous les tuer ou vous faire tuer par eux ? Nous vous conseillons de laisser les prêtres combattre tout seuls. » Plusieurs approuvaient hautement ces remontrances. « Nous sommes bien folles, disait-il, pourquoi nous faire tuer pour des prêtres ? Qu'ils se défendent s'ils le veulent, qu'ils disputent par la Sainte Écriture et non par l'épée. » Quelques-uns que la raison ne pouvait convaincre furent saisis de crainte. Le bon sens des fribourgeois dissipait le charme du fanatisme sacerdotal. Les affections naturelles, un instant comprimées, reprirent leur pouvoir. « Qu'on règle cette affaire » s'écriait-on de toutes parts. « Qu'on appointe !» Les magistrats, voyant les prêtres abandonnés, reprenaient courage. Il n'y avait pas un moment à perdre. Le conseil s'assembla au milieu de la place du Molard. Les huissiers écartèrent la foule. Les syndics furent les premiers à protester contre l'effusion du sang. Plusieurs notables les appuyèrent. La majorité du peuple sembla se prononcer aussi en faveur de la paix. Alors le premier syndic, Nicolas Ducrest, Claude Beau avec son panache et Pierre Malbuisson se portèrent en avant, suivis de quelques capitaines, pour traiter avec de la Maisonneuve et ses amis. Les plus avancés des Huguenots, les voyant s'approcher, crurent que la bataille commençait, et l'un d'eux, homme prompt et énergique, disposant une pièce d'artillerie, se mit à la mirer en prenant le droit par le milieu de cette compagnie et s'apprêta à mettre le feu. Le coup d'Iffroment eut fait une horrible brèche. Ce mouvement rapide effraya ceux qui s'approchaient. De tous côtés, on cria « La paix est faite !» À ces mots, l'artilleur s'arrête, les soldats reculent, les syndics s'avancent d'un côté, de la Maisonneuve et ses amis de l'autre, et les deux parties s'abouchent. La confiance n'était pas encore rétablie. On convint de donner des otages. Trois hommes notables furent livrés de chaque côté. Parmi les six se trouvait un chanoine, Gay. Aussitôt, le son de trompe retentit dans toute la ville et le héros cria « Que l'on pose les armes et que chacun retourne en paix chez soi, sans faire ni noise ni débat, sous peine d'être pendu. Et que nul n'ait à chanter, chanson ni ballade, provoquant à querelle, sous peine d'avoir le fouet » et d'être banni. Les sentiments les plus divers régnèrent alors dans Genève. Les prêtres et les fervents disciples de Rome ne pouvaient se consoler. Voulant à tout prix détruire la Réformation, ils trouvaient très chrétien de faire mettre à mort les réformés. Ils étaient surtout irrités contre le capitaine général, et l'un d'eux l'appela publiquement « traître ».« Cette paix moult grève les chrétiens », disait la sœur. Aussi les entendait-on s'écrier « Nous devrions à cette heure les dépêcher du monde, afin de n'avoir plus de leur part ni crainte ni fâcherie. Pour dire vrai, ajoute la dévote nonne, mieux eût été que de les laisser vivre. Mais tandis que quelques chefs catholiques, les Wernli, les moines, s'en retournaient chez eux, l'air mécontent, sombre, en espérant que l'affaire n'était que renvoyée, d'autres réformés ou catholiques franchissaient avec joie le seuil de leur demeure et des larmes de joie les y accueillaient. Les femmes embrassaient leurs maris, les petits-enfants entouraient leurs pères, les grands les débarrassaient de leurs épées. Les politiques souriaient en voyant la joie des uns et la tristesse des autres. Ils branlaient la tête et pensaient que, de part ou d'autre, on romprait l'accord dès qu'on le jugerait utile à ses intérêts. « C'est une paix fourrée !» s'écriait-il. Mais rien ne pouvait consoler certains moines. « Hélas !» murmurait-on dans les couvents. « Les chrétiens eussent facilement déconfits. » et mis en subjection les hérétiques, et maintenant ces méchants gagneront la domination dans la cité. » Le lendemain de cette journée, le 29 mars, le Conseil des 60 s'assembla pour assoupir les débats du jour précédent. La tempête n'était pas entièrement apaisée. Des membres catholiques du Conseil regardaient d'un œil menaçant quelques-uns de leurs plus notables collègues, Jean-Philippe, François Favre, Claude Rosé et d'autres. C'était contre eux, pensait-il, qu'il fallait sévir, car c'était en eux que se trouvait la force du mouvement anticlérical. Mais pour le moment, le vent était aux accommodations. On arrêta de chercher un compromis propre à satisfaire les deux parties, et quelques-uns des magistrats et des principaux citoyens se réunirent pour formuler le système qui devait unir Rome et l'Évangile. Les 200, auxquels se joignirent plusieurs autres citoyens, s'étant assemblés le 30 mars, le premier syndic fit d'abord mettre en liberté les otages, puis il proposa le fameux projet de conciliation. Le conseil l'ayant accepté, il en remit une copie au capitaine de chaque compagnie et, se tournant vers l'abbé de Beaumont, qui remplissait assez habituellement les fonctions d'évêque, vu les absences continuelles du prélat, le premier magistrat lui dit « Monsieur le vicaire épiscopal, je vous donne aussi une copie de cet arrêté afin que vous ayez soin de faire bien vivre vos prêtres. » C'était la principale difficulté. Tous les laïcs en convenaient. La séance fut levée. Aussitôt, chaque compagnie se forme sur sa place d'armes. Le capitaine se met au centre et Huguenot et Mameluk écoutent cet étrange arrêté qui, réglant une matière religieuse, était pris par l'autorité civile et proclamé par des soldats. « Au nom de Dieu, Créateur et Rédempteur, Père, Fils et Saint-Esprit, » dit le capitaine, tous se découvrirent. « Et pour bien de paix résolue, » continua l'officier d'une voix retentissante, que toute ire, rancune, injure et malveillance entre qui que ce soit de nos citoyens et habitants, tant ecclésiastiques que séculiers, ainsi que batterie, outrage et reproche faits d'un côté ou d'autre, soit totalement pardonné. On se montrait satisfait. Item, que toute la cité, de quelque état et condition que ce soit, vive dorénavant en bonne paix, sans faire nouveauté quelconque, jusqu'à ce que généralement, soit ordonné de vivre autrement. Vraiment, dirent quelques huguenots, une réforme, mais dans l'avenir. Item, continua le capitaine, que nul ne parle contre les saints sacrements, et qu'en ceci, chacun soit laissé dans sa liberté, selon sa conscience. Liberté et conscience, quelle parole nouvelle! Si le peuple de Genève gagnait cela, c'était tout gagné. Que nul, dit de nouveau le capitaine, ne prêche sans licence du supérieur, de messieurs les syndics et du conseil, et que le prêcheur ne dise chose qui ne soit prouvée par la Sainte Écriture. » Aucun article ne causa une plus grande satisfaction. « Bien, disaient quelques réformés, notre doctrine est celle de la Sainte Écriture. « Bien, disaient quelques catholiques, le supérieur fera en sorte qu'aucun hérétique ne prêche. » Le capitaine ajouta la défense de manger de la viande le vendredi, de chanter des chansons les uns contre les autres, de dire « tu es un luthérien » ou « tu es un papiste ». De plus, il ordonna aux pères de famille de notifier l'arrêté à leurs femmes et à leurs enfants. Les dames catholiques et leurs garçons avaient été assez en train lors de la bataille pour qu'on ne les oubliât pas. Le capitaine ayant fini, dit à sa compagnie « que ceux qui veulent la paix et l'amour lèvent la main et fassent serment à Dieu ». Les réformés, obtenant la Sainte Écriture et la liberté de conscience, levèrent la main. Les catholiques, voyant qu'on leur laissait l'autorité épiscopale et les jours de maigre, firent de même. Mais, en une certaine compagnie, un huguenot qui ne se souciait pas de ce mélange dit « Je refuse ».« Au Rhône !» s'écrièrent aussitôt les catholiques. « Au Rhône ! Il faut que sans merci, il soit traîné au Rhône comme un méchant chien !» Personne ne fut pourtant noyé. Le lendemain, il y eut procession générale par toute la ville pour rendre grâce à Dieu de la paix. Les catholiques triomphaient. La liberté religieuse et la Bible leur semblaient des choses si étranges qu'on n'en avait rien à craindre. Ils ont appris plus tard le contraire. Alors ce n'était à leurs yeux que des leurres apparents mais sans réalité, destinés à attirer et à prendre les huguenots. Le dimanche des Rameaux, un dominicain fort savant, disait-on, venu d'Auxerre, fut chargé de proclamer la victoire de Rome. La foule fut telle que l'église du couvent ne put la contenir. On conduisit le moine sur la place, devant le temple, et l'on y apporta une chaire où il monta. Se posant fièrement en face de son auditoire, « Me voici, dit le disciple de saint Dominique, me voici prêt à entrer en lice avec les prédicants. Que messieurs de Berne en envoient tant qu'ils veulent. Je me fais fort de les confondre tous. » Ils ne tarissaient pas en paroles étranges au grand mépris de la parole de Dieu. Les huguenots avaient peine à se contenir et s'écriaient « Ces cafards veulent boucher les yeux des simples pour qu'ils ne puissent voir le soleil qui a levé sur nous sa clarté. » Le dominicain, sans s'arrêter, continuait à lancer ses foudres quand tout à coup le trouble se mit dans l'assemblée. Les femmes criaient, les hommes s'agitaient. On crut que les huguenots sortaient des murs. Le couvent était dans un faubourg et qu'ils allaient fondre sur ce troupeau. « Fermez les portes de la ville » criait-on. Et cette exclamation épouvanta encore plus les dévots. Les uns dégainaient leurs épées, les autres tiraient leurs poignards, tous s'apprêtaient à se défendre. Le pauvre moine, croyant que les luthériens étaient déjà là et voulaient le mettre à mort, s'effraya, pâlit, tomba tout pâmé de la chair. Mais les huguenots ne paraissaient pas. On se mit alors à chercher la cause de l'alarme, et l'on aperçut un jeune lièvre qui avait été jeté tout vif parmi le peuple et qui courait çà et là entre les robes des femmes. C'était un tour joué par un mauvais plaisant. On se moqua beaucoup dans la ville de ces intrépides champions de Rome qui avaient héroïquement tiré leur poignard contre un levrau. Une autre cérémonie d'un tout autre genre, plus recueillie et plus grave, se préparait. On était dans la semaine de la Passion. Les évangéliques sentaient le besoin de se réunir dans un esprit de fraternité chrétienne autour de la scène du Seigneur. Le jeudi saint, 10 avril, 80 hommes et plusieurs femmes se réunirent dans le jardin du prélévêque. D'abord, l'un d'entre eux lava les pieds des autres en souvenir de l'acte fait par le Seigneur. Ce n'était pas pour eux une vaine imitation. Ils comprenaient l'intention de Jésus, rappeler que nul ne refuse de descendre jusqu'à servir ses frères et ses égaux, quelque bas et abject que soit ce service. Et il sentait que si la charité est abandonnée, c'est parce que chacun se prise plus qu'il n'est besoin et méprise presque tous les autres. Après le lavement des pieds, la Sainte Cène fut célébrée. Ces hommes énergiques s'humilièrent devant Dieu comme de petits enfants et, s'approchant de la table avec une véritable foi, plusieurs éprouvèrent que la présence du Rédempteur, bien que spirituelle, est réelle et nourrit l'homme intérieur. Dès que cette scène fut connue, toute la ville en parla, et les sarcasmes commencèrent à pleuvoir de tous côtés. « Ces Juifs, disait-on, ont mordu l'un après l'autre dans un morceau de pain et de fromage, en figure de paix et d'union. » Et là-dessus, les catholiques riaient, nous apprend la sœur Jeanne. Mais bientôt, l'effroi fit place au rire. En revenant du prélévêque, plusieurs huguenots, et parmi eux quelques-uns des plus redoutés, marchaient ensemble dans les rues. De sots bavards les ayant vus de loin, publièrent partout que de grosses bandes d'hérétiques se montraient sur les places et complotaient pour empêcher la célébration de la messe le grand jour de Pâques. La communion allait justement se célébrer dans les églises, car c'était le jeudi saint. Mais les femmes, effrayées par les rapports qu'on faisait, n'osèrent sortir. Les maris prirent leurs armes, les prêtres et les moines en firent autant, et ce fut couvert de cuirasses, de poignards et de bâtons que les pasteurs et leurs ouailles s'apprêtèrent à célébrer le repas de la paix. Ils prêtaient tous l'oreille, ils s'agitaient au moindre bruit, mais nul ne vint les troubler, et la communion se fit paisiblement. « Ce sera pour le vendredi saint, » dirent alors quelques catholiques. « Les huguenots, on le sait, » se préparent à faire ce jour-là une démonstration dans l'église des Dominicains où le moine d'Auxerre doit encore prêcher. Pour prévenir ce malheur, on décida que le beau-père ferait son sermon dans Saint-Pierre, ce qui, de vie d'homme, n'avait jamais été fait dans un tel jour. Les chanoines se croyaient dans leur cathédrale sans danger comme en une forteresse. Pour plus de sûreté, des bandes nombreuses parcouraient la ville. L'un des principaux catholiques, surtout M. de Thorens, se promenait fièrement entouré d'une troupe de ferrailleurs. Le vendredi matin, prêtres et fidèles se rendirent armés à Saint-Pierre. Quelques réformés s'étonnaient de les voir armés en un tel jour et rappelaient la parole du Seigneur « Remets ton épée dans son fourreau ». Cela veut dire, répliquaient les prêtres, qu'il faut la tenir serrée jusqu'à ce qu'il soit temps de la tirer. Il y a toujours de commodes interprétations. Ces bonnes gens étaient troublés sans sujet. Il n'y eut pas le moindre empêchement. Le prêcheur d'Auxerre dit tout ce qu'il voulait dire, mais il ne se sentait pas à son aise dans la ville des huguenots, et à peine le jour de Pâques était-il passé qu'il se retira hâtivement en son pays. Personne n'osa prêcher après son départ, ce qui étonnait fort les dévots catholiques. L'ordonnance du Conseil avait fait faire un pas dans Genève à la liberté religieuse, mais ce n'était guère qu'en théorie. La pratique était plus difficile. Selon les uns, il fallait que Genève fût entièrement réformée, selon les autres, entièrement catholique. Les esprits absolus demandaient jusqu'à quand on clocherait des deux côtés. et les partisans hardis répétaient que l'épée seule pouvait trancher ce nœud difficile. Le premier syndic, Nicolas Ducrest, et le conseiller roi partirent pour Berne afin de supplier le Sénat de ne pas appuyer la réformation. Mais les évangéliques, au contraire, désiraient qu'elle se développât librement. Plusieurs d'entre eux avaient une ardeur d'esprit, une faim, une vraie soif de justice. Leur âme cherchait un salut éternel. Ils étaient ambitieux de vérité céleste, comme les conquérants le sont de gloire et d'empire. Le clergé, en les privant de leurs ministres, les avait réduits à de simples essais d'édification mutuelle. Or, ils voulaient la grande prédication de l'Évangile sans laquelle l'Église se rapetisse. « Nous souffrons d'isette, disait-il, nous sommes dépourvus de notre droit. Un moine hardi ne cesse de nous crier qu'il est prêt à confondre tous les prédicateurs que Berne voudra nous envoyer. Eh bien, demandons à Berne des ministres dont la savante parole réduise au silence ces dominicains insolents et babillards. » Le voyage du syndic Ducrest inquiétait de la Maisonneuve. Qui sait si le respect dû à ce premier magistrat de la République ne ferait pas faire à ce puissant canton de Berne une fausse démarche. Il s'efforça de prévenir un si grand mal. Il communique son dessein à son fidèle Acat, Salomon. Celui-ci était plein de confiance dans son ami et ils partirent aussitôt pour ce périlleux voyage. Le syndic Ducrest et le conseiller roi, arrivés à Berne le 6 avril, crurent apercevoir un jour dans la rue de la Maisonneuve et Salomon. Étonnés, ils s'arrêtèrent, ils les regardèrent, ils les toisèrent, ne sachant s'ils avaient un éblouissement. C'étaient bien ces deux huguenots. Le premier syndic irrité s'approcha d'eux et leur dit sèchement « Que faites-vous ici ?»« On dit que vous avez ordre de parler contre nous, » répondit de la Maisonneuve. « Nous sommes ici pour nous défendre. » Le lendemain, les deux magistrats genevois s'étant rendus au conseil, furent encore plus surpris en trouvant dans la salle d'attente les deux chefs réformés. Ils espéraient au moins entrer seuls au conseil. Mais non, à peine la porte est-elle ouverte que les deux huguenots s'avancent, sans autre cérémonie, avec les deux magistrats et s'assoient tranquillement à leur gauche. Y avait-il donc alors à Genève une seconde puissance qui envoyait aussi des ambassadeurs ? De la Maisonneuve était en effet un ambassadeur. Son cœur brûlait pour une grande cause, celle de l'Évangile et des temps nouveaux. La vérité qu'il représentait le remplissait de courage. Il se leva le premier, même avant que le magistrat de Genève eût pris la parole, et dit avec une sainte hardiesse « Très honoré Seigneur, nous et un grand nombre de nos concitoyens, nous désirons que la pure parole de Dieu soit prêchée dans Genève. La voix de l'Évangile, jadis si peu entendue, retentit maintenant dans toute la chrétienté, et nous ne voulons pas renoncer à l'entendre. Ni le bannissement, ni aucune menace ne pourront nous abâtardir en nonchalance et en oisiveté. » Puis, sans craindre le premier syndic qui l'écoutait, « Messieurs, continua-t-il, savez-vous à quoi nous sommes réduits ? Nos magistrats nous font la guerre, et ils s'efforcent de chasser de Genève cet évangile que vous avez établi dans Berne. Après la visite que nous vous avons faite naguère, ils nous ont fait paraître devant eux. Et ce Nicolas Ducrest, ici présent, dit-il en montrant le syndic, a foulé aux pieds nos libertés et nous a parlé comme à des larrons. Au lieu de répondre à vos lettres, ils ont, de maison en maison, exhorté leurs partisans à prendre les armes. Ils ont sonné le tocsin, ils ont amassé les chanoines, les prêtres et le petit peuple. Ils ont ourdi une méchante et enragée conspiration. « Et pourquoi, messieurs ? Il faut, disait-il, trancher la tête à ceux qui sont allés à Berne. Voilà, très honoré seigneur, le cas que l'on fait de votre bourgeoisie. Liberté de Genève, alliance des ligues, justice des lois, tout est foulé aux pieds par des prêtres déterminés à ne nous laisser pour patrimoine que l'esclavage, la superstition, les larmes, les gémissements, les sanglots. Il faut y porter remède, et vous seul le pouvez, très honoré seigneur. Un moine fanatique qui prêche contre la pure religion a offert d'entrer en lice contre tout ministre de l'Évangile que vous enverriez. Faites ce qu'il demande, accordez à nous et à nos consorts l'un de vos prédicateurs, obtenez pour lui un lieu public où il puisse annoncer librement la parole de Dieu, qu'il combatte en une dispute bien réglée cet insolent dominicain et assure ainsi le triomphe de l'Évangile. De la Maisonneuve savait à quoi il s'exposait en parlant avec tant de franchise. Aussi ajouta-t-il, Peut-être voudrez-vous aussi veiller à ce que cette juste requête ne nous empêche pas de retourner chez nous et d'y vivre paisiblement. » Le syndic et le conseiller genevois, qui ne s'étaient pas attendus à une telle harangue, étaient embarrassés. Venus comme accusateurs, ils se voyaient accusés. Les regards indignés des conseillers de Berne troublaient le magistrat de Genève encore plus que le discours du député protestant. La voyer se tournant vers le syndic, lui demanda s'il avait quelque chose à répondre. « Nous n'avons aucun ordre là-dessus, » répliqua-t-il, « et par conséquent, nous n'avons rien à dire. »« Eh bien, » dirent messieurs de Berne, « nous enverrons sous peu des députés à Genève, et ils verront ce qui s'y passe par rapport à la religion. » La séance fut levée. Il semblait qu'un vent favorable allait souffler sur le navire évangélique, mais un orage se préparait et allait peut-être le briser. Thank you.